Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest ce dimanche matin jusqu'à 9h, votre magazine Tendance Confidence avec aujourd'hui Xavier Latournerie qui est ancien officier des forces spéciales. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes marié, père de famille, et après votre parcours dans l'armée, vous avez choisi, à mi-parcours de votre vie professionnelle, d'intégrer l'EDEC, une école commerciale qui se situe à Lille.
Voilà, donc moi je suis arrivé à l'EDEC plutôt en milieu de parcours dans ma vie professionnelle. J'étais officier quand j'ai fait ce parcours à l'EDEC. J'étais officier dans l'armée de terre, dans les forces spéciales. Et j'ai fait ce programme à l'EDEC dans le cadre d'une préparation à ma reconversion et avec l'envie derrière de me lancer dans une nouvelle aventure, un nouveau challenge dans l'entrepreneuriat.
Alors, vous avez travaillé dans les forces spéciales et vous avez repris un parcours universitaire. En quoi, à l'âge de 40 ans, cela vous a-t-il marqué ?
Ça a été un très beau témoignage pour nos 5 enfants, de voir leur père se remettre sur les bancs de l'école et se retrouver avec du travail à faire le soir à la maison. Ça a été surtout pour moi une belle opportunité de faire des rencontres très enrichissantes pour me préparer à ma nouvelle vie professionnelle, pouvoir mieux comprendre là où j'étais attendu, ce que je pouvais apporter et le programme que proposait l'EDEC, intégrer des séances de coaching qui m'ont permis de mieux identifier la pierre que j'avais maintenant à apporter dans un tout autre environnement que l'environnement militaire.
Alors après avoir connu cette expérience dans les forces spéciales, dans l'armée, est-ce que vous considérez le fait de redevenir étudiant comme un changement de vie ou une continuité dans votre vie professionnelle ?
En fait, je suis rentré à l'EDEC avec une idée de rupture et j'en suis sorti avec une idée que c'était une continuité. Je suis rentré à l'EDEC avec l'idée que j'avais envie maintenant d'être mon propre patron, avec mon entreprise et de m'engager dans cette aventure d'entrepreneuriat. Et j'en suis sorti en me disant, en fait non, faut que tu t'appuies sur ce que tu as fait pendant 26 ans et que aujourd'hui ça serve et que tu continues à servir la France autrement.
Et en quoi consiste aujourd'hui votre activité professionnelle ?
Ce que je fais aujourd'hui avec CIFCO, qui était historiquement Saint-Cyr Formation Continue, c'est ça. C'est servir la France autrement en proposant de contribuer à l'unité nationale, en renforçant les interactions entre la communauté de défense et la société civile.
Alors, une famille est composée de différentes personnes. Dans une société aussi, il y a plusieurs individus. Alors, comment faire corps lorsque nous parlons de l'armée, lorsque nous parlons du domaine médical? Comment faire corps ensemble en tenant compte des singularités de chacun?
Je pense qu'on apprend à tout âge et qu'il serait vain de croire que les gens sont enfermés dans cet individualisme. Il faut aujourd'hui réinterroger les personnes, les refaire beaucoup de philosophie pour permettre à chacun de s'interroger sur son rôle et sa place dans la société, dans l'organisation. Amener les gens à réfléchir à leur rôle dans cette organisation qu'est la société, mais qui peut être la famille, qui peut être l'entreprise dans laquelle on est, l'association dans laquelle on sert, etc. Je pense qu'on a tort dans notre société d'associer leadership et le chef. Voilà, le leader, c'est le chef.
Vous parlez de leadership à l'instant, vous parlez aussi de chef. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
Pour nous, le leadership, c'est plutôt offrir le meilleur de soi et permettre aux autres d'en faire autant. Et donc, prendre toute sa place, et rien que sa place, faire tout pour que l'autre puisse aussi amener sa plus belle pierre et la mettre au service des autres. Et ça, c'est offrir finalement ce qu'il y a de plus beau en soi et de le mettre au service des autres. Et vous voyez que quand on comprend ça, on comprend bien que c'est vrai pour les parents, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour un dirigeant, c'est vrai pour un ouvrier. Tout le monde est appelé à exercer son leadership de cette façon-là.
Mais j'ai vu qu'il y avait une devise qui vous tient à cœur, que vous empruntez à Louis Lavelle, qui écrit « Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n'est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur ».
C'est exactement ce que je disais sur cette force qu'on doit développer, cette capacité, c'est une compétence, c'est permettre à l'autre de prendre toute sa place. C'est là où c'est très compliqué aujourd'hui dans notre société, où on est vraiment égocentré. Tout le monde regarde son nombril et pourtant, voilà, il faut qu'on soit vigilant dans tous les gestes de notre quotidien pour veiller à ce qu'on n'écrase pas l'autre et qu'on permette justement à l'autre de prendre toute sa place, qu'on facilite sa démarche. Voilà. Et on se rend bien compte que quand on fait ça, c'est très enthousiasmant à titre personnel, beaucoup plus que de se regarder le nombril. Et puis surtout, voir l'autre s'éveiller, c'est quelque chose d'absolument merveilleux.
Xavier Latournery, avec vous, nous parlons aussi de CIFCO, Saint-Cyr Formation. Ce que vous dites à l'instant me fait repenser à un sujet qui avait été développé par les semaines sociales Porte de Versailles à Paris. Voici le sujet, je vous laisse 2 heures pour le développer. Comment transmettre des valeurs et éveiller à des libertés?
Comment transmettre des valeurs? Moi, je suis absolument impressionné dans toutes les interventions que je fais quasiment de façon quotidienne maintenant, par l'accueil qui est réservé à un discours qui promeut des choses qui sont élémentaires, qui me paraissent, moi, basiques, j'ai presque envie de dire, et que les gens découvrent.
Comme
par exemple, quand je leur parle de se connaître, je m'appuie sur Aristote, en fait, et cette différence que Aristote fait entre le tempérament du domaine presque de l'inné, vous voyez, que vous n'avez pas choisi. Comment est-ce que, par l'éducation, sur la base des vertus, on arrive à émousser les traits saillants de ce tempérament pour devenir plus sociable.
Alors, Xavier Latournery, vous avez une famille, vous êtes passionné par la transmission des savoirs et des compétences, nous en avons parlé, mais comment faire lorsque chacun et chacune d'entre nous, nous avons des tempéraments tellement différents?
On en a 4 grands, mais on est rarement qu'un des 4. Hein. C'est, voilà, les 4 grands, c'est être colérique, on est sanguin, ou on est flegmatique, ou on est mélancolique. Et en fait, dans chacun de ces 4 tempéraments, il y a quelque chose de bon. C'est-à-dire qu'un mélancolique, typiquement, c'est quelqu'un qui va être dans les idées, la recherche de la compréhension des choses, et qui va aimer, si vous voulez, le débat d'idées, etc., mais qui va avoir du mal à passer dans l'action. Un sanguin, c'est quelqu'un qui aime tellement les relations qu'il va monter en pression.
Spontané, quoi.
Ah, c'est ça, c'est quelqu'un de très spontané qui monte en pression, qui redescend aussi vite. Et quand il est redescendu, vous le regardez, vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé. Vous avez peut-être été très bousculé, mais pour lui, il ne s'est rien passé. Il a juste envie, lui, de restaurer très vite la relation. Bon, allez, s'il est bien, il va vous donner un petit mot d'excuse rapide, et puis il va passer à autre chose, mais vraiment comme si rien ne s'était passé.
Vous avez parlé du flegmatique également.
Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien, le flegmatique, parce que c'est quelqu'un qui veut toujours la paix. Pour le flegmatique, la difficulté, ça va être de trancher et de rendre à chacun selon son dû.
Et quant au colérique?
C'est quelqu'un qui est très énergique, qui est très fort dans l'engagement et qui a besoin de canaliser cette énergie. Mais justement, quand un travail sur les vertus permet de canaliser cette énergie, on obtient de lui le meilleur.
Colérique plutôt orienté vers l'action. Le mélancolique, c'est l'idée qui l'occupe. Le sanguin, c'est un être aussi de relation, bien que spontané. Tandis que le flegmatique, il est mesuré, il cherche avant tout la paix. Connais-toi toi-même. Vous vous situez où, vous, Xavier Latournery?
Mon tempérament principal, c'est d'être colérique. Et le secondaire, c'est d'être un mélancolique. J'aime aussi cette réflexion, cette compréhension, et c'est très prégnant dans ma manière d'être.
Vous avez été militaire dans le cadre des forces spéciales. Maintenant, vous êtes passionné par la transmission des savoirs et des compétences. Nous avons terminé la première partie d'émission en parlant des différents tempéraments. Et maintenant, avec vous, nous allons ouvrir cette seconde partie avec les différentes vertus que chacun ou chacune d'entre nous pouvons avoir.
Vous voyez, les 4 vertus fondamentales sur lesquelles qu'évoque Aristote, c'est 1, la prudence. La prudence, c'est la capacité à prendre de bonnes décisions. Ça n'est pas un frein à l'action, c'est prendre de bonnes décisions. La deuxième vertu qu'il évoque, c'est la tempérance. Et la tempérance, c'est ce qui nous fait contrôler, finalement, nos émotions, nos impulsions. C'est le contrôle de soi, finalement. Voilà. Et ça, c'est éminemment important pour un colérique comme pour un sanguin. La troisième vertu qu'évoque Aristote, c'est le courage. Le courage, c'est d'oser, oser faire les choses, oser s'engager, accepter le risque.
Prendre des initiatives.
Et ça, ce courage-là, c'est éminemment important, je vous le disais, pour certains traits de tempérament. Et puis après, vous avez la justice, dernière vertu, les 4 vertus principales que cite Aristote, la justice qui est de rendre à chacun selon son dû.
4 mots, 4 vertus que nous venons de voir avec vous, inspirés de cette philosophie aristotélicienne, la prudence, la justice, le courage et la tempérance. L'école de Saint-Cyr, beaucoup d'entre nous en avons entendu parler, peut-être y a-t-il quelques élèves à l'écoute de Tendance Ouest ce matin. Quelques mots avec vous entre CIFCO et Saint-Cyr, c'est-à-dire?
Alors CIFCO, c'est l'entreprise que je co-dirige aujourd'hui avec 2 autres associés qui sont Cyril Barthes et Francis Ducrot. CIFCO, c'est une petite entreprise, on a une 30aine de salariés, on a une petite 100aine de vacataires qui vient nous aider.
Nous avons parlé de cette notion de tempérament, de vertu avec vous. Cette fibre d'Aristote aussi vous inspire, comme celle de Socrate, mais aussi celle de l'Évangile. Parlez de bien commun pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire?
Dans l'exercice du leadership, on voit bien qu'il y a 2 choses. Il y a une dimension individuelle et il y a une dimension qui est la relation à l'autre. Enfin, le bien commun, c'est le développement intégral de la personne et de l'organisation dans laquelle on est. Famille, l'entreprise dans laquelle on est, son pays, l'Europe, le monde. Et donc, le bien commun, c'est ça. Et c'est, on comprend bien dès lors que c'est un idéal, vous voyez ? Œuvrer pour le développement intégral d'une personne et de l'organisation, c'est-à-dire les deux en même temps. Et puis, si on n'a ni intérêt pour la personne, ni d'intérêt pour le collectif, ben là, on tombe dans une sorte de cynisme profond. Et voilà. Et le bien commun, c'est donc l'opposé de tout ça. Et on comprend que c'est un idéal, c'est-à-dire qu'on n'est jamais vraiment dans l'idéal du bien commun. Mais par contre, j'aime bien dire que c'est un critère de base de discernement.
Donc un discernement, une réflexion éclairée avant de prendre une décision.
Et voilà, quand j'ai une décision à poser, je dois m'interroger sur est-ce que la décision que je prends, elle va bien servir le développement de la personne qui va être concernée ou des personnes qui vont être concernées, mais de chacune de ces personnes-là, de manière intégrale. C'est-à-dire, voilà, est-ce que physiquement, est-ce que moralement, est-ce que intellectuellement, vous voyez, les trois dimensions de la personne, son corps, son cœur, son esprit, est-ce que ces trois dimensions vont être nourries par cette décision ? Et est-ce que cette décision va avoir un impact positif en même temps dans une dimension collective. Tout se tient, mais c'est éminemment compliqué, vraiment.
Avec vous, nous parlons du bien commun, de formation, et puis aussi dans la transmission des savoirs et des compétences. Vous qui avez été donc dans l'armée, dans les forces spéciales, est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner, peut-être par rapport à des services que des personnes pourraient rendre ?
Je vais vous donner un exemple, ça va être plus parlant. Il y a eu un tremblement de terre. Vous mettez ce groupe-là, ce sont des personnes qui se sont mises spontanément à la disposition de l'autorité civile et à qui on va confier des missions qui vont être d'aller chercher un blessé au fond d'un bois, de traverser une rivière pour amener une piqûre à une petite fille qui est de l'autre côté qui, si elle ne l'a pas d'ici une heure, pourrait avoir des séquelles graves, etc. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a un vrai enjeu. Et l'idée, c'est de regarder comment cette équipe s'organise pour faire face à une situation complexe et discerner, décider, agir. Et donc, dès que tout le monde est passé dans cet atelier, qui, encore une fois, dure une heure et demie, on va faire un débriefing où on va demander à chacun de s'exprimer et finalement de répondre à trois questions. Comment je me sens ? Par quoi j'ai été marqué ? Quels sont les faits dans l'expérience que je viens de vivre qui m'ont marqué ? Finalement, quel enseignement j'en tire ? Et le mentor qui accompagne le groupe, qui a la particularité chez CIFCO d'être un ancien militaire qui a fait une transition professionnelle et qui aujourd'hui exerce des responsabilités dans l'entreprise, eh bien dans l'armée, on a une façon unique de donner, dans l'armée de terre, de donner des ordres du caporal au général, qui est situation, mission, exécution, point particulier, place du chef.
Évidemment, derrière, il y a toute cette question du sens, le sens qui peut être l'orientation ou le sens que je peux donner à ma vie dans ce que vous lui dites là comme pédagogie utilisée.
On parle beaucoup de la quête de sens. Cette façon de donner un ordre est une façon de répondre à la quête de sens de nos soldats. La mission, c'est la réponse à la question « à quoi ça sert ?». Le paragraphe « exécution », c'est finalement la liste des tâches qu'on va exécuter pour remplir la mission, qui sont fixées à un responsable, avec une équipe, dans un cadre espace-temps. Et donc, du coup, à ce moment-là, chacun peut intégrer le « à quoi je sers ?». Quand on permet à ses collaborateurs de répondre à ces deux questions fondamentales, à quoi ça sert, à quoi je sers, on ne parle plus de quête de sens, c'est le problème est réglé. Et notre idée, ce n'est pas de dire, dans l'entreprise, de vos directives en disant situation, mission, exécution, point particulier, place du chef, ça n'aurait pas de sens. C'est de dire, voyez, comment est-ce que, avec un outil, on répond aux besoins de ses collaborateurs. Et donc, l'idée derrière, c'est de leur laisser un temps d'appropriation de tout ça, en disant, comment moi, dans mon environnement professionnel, par rapport à ce qui résonne en moi là profondément après cet atelier, qu'est-ce que j'en fais et comment est-ce que je vais le transposer dans mon environnement ? Et à la fin de la journée, on fait une relecture de tout ce qu'on a vécu ensemble. Et là, pour le coup, c'est très puissant parce qu'il y a vraiment un engagement de la personne qui a vécu quelque chose, encore une fois, dans les trois dimensions de sa personne. Les ateliers, naturellement, les engagent physiquement, les engagent avec l'intelligence collective qu'il faut mettre en œuvre pour trouver la solution, parce que c'est toujours des situations complexes, et les engage avec le cœur, parce qu'ils vivent ensemble quelque chose de très fort, et donc ça suscite des émotions très fortes.
Avec vous, pendant cette émission, nous avons parlé de formation, nous avons entendu de votre part différentes clés de lecture, de discerner, d'éclairer une réflexion pour en arriver à un choix de vie. Que répondez-vous à des personnes qui pourraient vous dire, écoutez, pour cela, je ne suis pas capable ?
Alors, là, je viendrai vous parler d'humilité. Je pense que le « je suis pas cap », c'est souvent une façon de ne pas reconnaître la plus belle pierre qu'on a au fond de soi et de refuser de la mettre au service des autres. Et donc, c'est là où il y a tout un travail à faire, de se dire, en fait, on a tous une très belle pierre au fond de nous-mêmes. Moi, j'appelle ça la pépite. On a tous une pépite à mettre au service des autres. Et quand cette pépite-là, on la cache, elle manque. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre à ces gens-là. Elle manque à soi, mais elle manque surtout aux autres. Ouais. Et donc, c'est ça. Le TEPACAP, c'est je refuse de mettre ma pépite au service des autres. Et c'est là où il faut aider cette personne-là, donc l'aider à réaliser que cette pépite-là, elle va être encore plus belle quand elle sera vraiment mise au service des autres.
Et c'est le mot de conclusion avec vous, Xavier Latournerie. Qu'est-ce que vous souhaitez adresser aux auditeurs de Tendance Ouest ?
J'invite tous les auditeurs à visiter notre site internet civco.fr et puis surtout, je les invite tous à travailler sur leur engagement au service des autres pour offrir le meilleur d'eux-mêmes et permettre aux autres d'en faire autant.
Merci beaucoup pour ce temps accordé à Tendance Ouest, Xavier Latournerie.
Merci à vous.
Podcast by Tendance Ouest.